La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, Tintin, de la quête des origines à la construction de soi. Même si nul ne sait quelle fut l'origine de l'univers, nous ne nous privons pas d'en parler. Mais en parler, est-ce la dire? Pour les uns, les religions permettraient d'aller plus loin et surtout plus haut que les sciences. Pour d'autres, la physique, dont la lampe torche n'a jamais été aussi puissante, pourrait au contraire ravir la création des mains des religions ou des mythes pour la mettre dans son escarcelle. Pour d'autres enfin, c'est vers la philosophie, seule capable de synthétiser nos connaissances, de les éclairer et de leur donner un sens qu'il faudrait plutôt se tourner. Mais l'origine de l'univers, dès lors qu'on prend au sérieux ce qu'elle représente, peut-elle être l'objet d'un discours à la fois cohérent et complet? Les innombrables récits qui décrivent la naissance de l'univers affirment d'emblée qu'au tout début, il y avait ceci ou cela. Ils imaginent le monde originel non comme une émanation du néant pur, mais comme déjà empli de quelque chose. Cette chose présente au tout début, en amont de toutes les autres, peut-être, selon les versions, un dieu ou une divinité, un océan, une matière informe, le vide quantique, un trou noir, ou bien encore le chaos originel. Mais un début qui fait suite à quelque chose qui l'a précédé, est-ce vraiment le début? À l'évidence, non, car de deux choses l'une. Ou bien cette chose qui existait déjà a toujours été présente, c'est-à-dire n'a jamais eu elle-même de commencement, et dans ce cas, l'univers n'a pas eu d'origine proprement dite, ou bien elle est elle-même la suite ou la conséquence d'une autre chose qui l'a précédée, et dans ce cas, elle ne peut être considérée comme l'origine. L'origine de l'univers semble ainsi faire comme un trou dans nos représentations, un trou si grand que l'intelligence et l'imagination font ce qu'elles peuvent pour le combler, sans jamais y parvenir tout à fait. Les physiciens, pour ne citer qu'eux, butent sur le mur de Planck, ce moment particulier de l'histoire de l'univers, une phase par laquelle il est passé, il y a 13,7 milliards d'années, et dont la physique actuelle est impuissante à décrire ce qui s'est passé en son amont. Le mur de Planck représente ce qui nous barre l'accès à la connaissance de l'origine de l'univers, et même nous empêche de savoir si l'univers a vraiment eu une origine. Mais il existe un être dont l'origine est encore plus mystérieuse que celle de l'univers. Cet être, c'est Tintin. Et oui, Tintin a surgi d'un coup dans Tintin au pays des Soviets, comme par création ex nihilo. Il est absolument sans antécédent, il n'est issu d'aucune histoire, d'aucun passé, d'aucun roman familial. Il est comme il est né, il ne vieillit pas. A-t-il seulement eu une maman? Pour répondre à ces questions difficiles, j'ai invité Philippe Rath. Vous êtes historien, vous avez été membre de l'UNESCO, mais ce n'est pas pour cela que je me suis permis de vous inviter. Je vous ai contacté car vous êtes l'auteur d'un ouvrage assez étrange qui s'intitule « Tintin ou l'accès à soi ». J'ai l'impression, à vous lire, que vous connaissez tous les albums de Tintin par cœur.
Nous connaissons tous les albums de Tintin pour avoir baigné dedans et être tombé dedans en étant petit, comme Obélix dans sa marmite. Mais votre propos liminaire m'amène à deux observations. La première, c'est que Tintin est contemporain ou à peu près de la physique quantique. Il est né en 1929. Et c'est
deux ans de retard.
Deux ans de retard, mais il fallait le temps que l'écho arrive. Et deuxièmement, c'est le fait que, au fond, le problème de l'origine de l'univers que vous posez, c'est le même chez Tintin qu'au prix d'une petite modification des mots, puisqu'on va vers l'origine de l'uni. Et c'est ce que je m'efforce de développer dans ce livre, c'est-à-dire que toute la série, la saga, l'épopée des 24 aventures de Tintin, c'est en réalité une sorte de conquête de soi, de l'unité de soi, qui est manifestée au moment où il se retrouve avec Chang dans la grotte du Yeti, où leurs bras enlacés forment le signe du yin et du yang. Et toutes les aventures précédentes ont tendu à cette réunion de soi à soi.
Alors ça, c'est l'objet, en effet, de votre livre, Philippe Rath. Mais avant, je voudrais, comme cette émission s'appelle La Conversation Scientifique, que nous parlons un peu du statut de la science de Tintin. Comment y est-elle présentée?
Je pense qu'il faut d'abord prendre une précaution. Quand vous parlez de science à vos auditeurs, qui sont nombreux à vous écouter, je le sais, vous avez affaire à des gens qui en savent en général un peu moins que vous. Dans le cas de Tintin, c'est certainement l'inverse. On est confronté à trois problèmes avec Tintin. D'une part, il existe une communauté extrêmement nombreuse de spécialistes hyper pointus et vétilleux, et qui objecteront à tout propos tenu sur l'objet de leur connaissance de collectionneur. Il y a d'autre part une immense majorité, le monde entier, qui connaît Tintin mais sans rien savoir de lui. On en a entendu parler, on l'a lu étant enfant et ça c'est pas grand-chose, donc ils sont un peu imperméables à un approfondissement. Et puis enfin et surtout, nous parlons d'un corpus qui n'est pas facile à déterminer, puisque beaucoup des ouvrages ont été repris, réécrits, refondus, raccourcis au cours du temps. Et pour faire simple, nous allons travailler sur les livres tels qu'ils sont maintenant en librairie, c'est-à-dire les dernières versions. Et en fait, on se demande pourquoi en parler, puisqu'au fond, ça se vend très bien comme ça.
Alors, il y a des savants, il y a des ingénieurs. Alors, il y a le professeur Tournesol.
Il y a des savants, des ingénieurs. Du reste, Hergé est contemporain d'une époque où la science était au pinacle, et la technique également. Elle était extérieure, elle était incarnée par des grandes réalisations, et il est assez naturel que Tintin ait évolué dans un milieu où la science a sa place. C'est évident avec la pile atomique, sur laquelle Wolf donne des explications très compliquées. Je me souviens qu'enfant, je sautais. Cette explication, c'était trop difficile. Il y a une fusée lunaire, il y a des ondes, il y a des rayons Z dans Le Magnétoban ne répond plus, de Joe Z. Il y a l'astronomie. Tintin est un grand spécialiste qui, à partir d'un petit bout de journal, parvient à calculer l'heure exacte d'une éclipse dans une dizaine de jours. Et donc, on a là une présence latente de la science. Qui, à travers le professeur Tournesol, qui au départ est un espèce de bricoleur en chambre, et qui devient progressivement le grand professeur Tournesol, qui met au point des produits chimiques conjurant les explosifs de l'essence, qui met au point une fusée lunaire. Il incarne la science.
Qui met au point une télévision.
Qui met au point une télévision,
effectivement. Supercolor Trifonard.
Alors, vous voyez, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons tous des télévisions au poignet, dans nos téléphones, partout. Et pourtant, la mise au point de cet appareil ne paraît pas archaïque. Elle est parfaitement inscrite dans l'histoire. Et c'est là qu'une deuxième puce se met à l'autre oreille. C'est-à-dire qu'on se dit que toutes ces technologies, tous ces éléments que Hergé introduit dans sa construction de l'œuvre renvoient vers autre chose. Je vais prendre une métaphore scientifique qui permettra peut-être de comprendre. On peut s'intéresser à beaucoup d'aspects de la vie sur Terre. Il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de sciences qui s'en occupent. Mais on ne doit jamais oublier que la vie n'est rendue possible que parce qu'il y a un champ magnétique terrestre produit par la convection des masses rocheuses en fusion à l'intérieur de la Terre, et faute duquel le Soleil nous aurait depuis longtemps fait disparaître.
Bombardé de rayons terribles.
Voilà. Et donc, sous les apparences d'un récit en l'occurrence, ou d'autres aspects de la vie, si on parle d'autres sciences, il y a quelque chose de plus profond. Et c'est cette chose plus profonde et son champ magnétique que j'ai cru discerner dans certains aspects de l'œuvre de Tintin, à partir de quoi il s'est révélé qu'il y avait en effet un sacré champ magnétique.
Mais est-ce que vous seriez d'accord, Philippe Rade, pour dire qu'il n'y a pas de chercheur dans Tintin, à part Tintin lui-même, qui passe son temps à chercher?
Alors, il n'y a pas de chercheurs, en effet, il y a des ingénieurs, pas beaucoup, il y a le grand professeur Tournesol qui trouve, mais qui ne cherche pas, ce qui est quand même plus facile, il y a des plans qu'il met dans sa poubelle, et puis les plans font une fusée juste après, mais l'ensemble de l'œuvre est organisé selon une sorte de manuel parfait de la démarche scientifique. Je passe en revue très rapidement, détecter le problème, formuler le problème, explorer les solutions fausses, oser la piste de l'impossible, aller jusqu'au bout du pari fou. C'est le fait d'aller chercher Chang.
Être têtu,
être un obstiné, contre vents et marées, contre la doxa. Galilée était dans le même cas.
Avoir de la chance.
Faire la découverte, avoir de la chance, absolument, et en tirer toutes les conséquences. Donc, sur 24 albums, c'est exactement ce parcours qui nous est proposé. Mais l'intérêt, c'est que s'il était proposé en mode didactique, comme on peut le faire dans des cours à Centrale ou à Polytechnique, en expliquant voilà la méthode, c'est difficile à recevoir de l'extérieur. Tandis que là, on l'accompagne comme une barque posée. Vous savez, dans les rias en Bretagne, quand la marée change de sens, une barque qui est sur la ria est entraînée tout doucement, très doucement vers le large. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec la lecture de Tintin. On est posé là, tranquillement, et puis on se laisse emmener vers une pratique de la méthode scientifique, comme dirait un grand philosophe contemporain, à l'insu de son plein gré.
Qui était aussi un très grand coureur cycliste.
Absolument, c'est ce qui le rendait apte à monter à des sommets.
Du centre de recherche atomique de Zbrodge en île d'Avis est partie, vous le savez, la première fusée lunaire emportant avec elle Tintin, Milou, le capitaine Haddock, le professeur Tournesol et l'ingénieur Wolf. Or, vous savez aussi qu'on attend anxieusement que les membres de cette étonnante expédition reviennent de leur évanouissement consécutif au départ.
Allô, allô, ici la Terre, fusée lunaire, répondez. Allô, allô, ici la Terre, fusée lunaire, répondez.
Philippe Rade, alors,
ici fusée lunaire.
Votre livre s'intitule... Allô. Tintin ou l'accès à soi. Dans Mon petit chapeau, j'ai parlé de la question de l'origine. Tintin n'a pas d'origine, il apparaît tel qu'il est, il ne change pas. Il rencontre Chang une première fois, le retrouve des années plus tard et lui-même n'a pas changé, Chang non plus d'ailleurs. Comment expliquer cette permanence dans un univers qui change ?
Bien, ces remarques sur l'âge du capitaine, si j'ose dire, prouvent que la question n'est pas de raconter une histoire qui se suivrait dans le temps, mais d'utiliser des personnages comme des emblèmes d'un certain nombre d'aspects du problème que l'on est en train de traiter.
Donc des invariants totémiques ?
Très bonne définition, des invariants totémiques ou des invariants dans une équation aussi. Il y a des paramètres qui sont stables et fixes et qui permettent de résoudre
l'équation. Des lois physiques qui sont invariantes.
Il y a des lois physiques qui sont invariantes.
Toutes sont invariantes,
en fait. Toutes sont invariantes, donc nous sommes en pleine physique.
Si votre four à micro-ondes tombe en panne, c'est parce qu'il est tombé en panne, pas parce que les équations de Maxwell sont devenues fausses.
Je suis d'accord. Mais revenons à notre pot, si j'ose dire. On peut dire, je crois, que l'œuvre de Hergé, ou plutôt la démarche de Tintin, correspond exactement au même type de renversement copernicien que ce qu'on a pu connaître avec Galilée, ce qu'on a connu avec Einstein, ce qu'on a connu avec Bohr, ce qu'on a connu avec Pasteur, ce qu'on a connu avec Newton, c'est-à-dire faire apparaître une autre structure de l'univers ou des choses que l'on étudie que celle qui prévalait jusque-là. Alors, reste à spécifier quel est ce problème lancinant auquel Hergé se heurte, et c'est très difficile à concevoir pour nous qui appartenons à une génération d'après-guerre dans laquelle ces questions ont été très largement allégées, dissipées, voire évacuées. Mais je crois que à l'époque où Tintin vient au monde, en 1929, et pour toute la durée des 25 ans où va s'étaler cette construction intellectuelle de Hergé, un problème fondamental auquel Hergé s'applique, c'est celui de l'ipséité, c'est-à-dire celui de la construction de la personne distinctement de son identité extérieure. C'est Paul Ricoeur qui a fait cette différence entre les deux, et on va le détailler comme ceci, chacun a une carte d'identité qui dit qui il est, qui met un numéro, son nom, son âge, son sexe, sa naissance, tout ça. Mais où est le territoire ? Alors, on est fils de quelqu'un, on est né quelque part, on appartient à une culture, on a un statut, un rôle social, et Tintin a tout ça. Mais c'est pas ça qui épuise la singularité du sujet, et c'est même quelquefois un handicap pour être soi-même. On devient ce que les autres pensent que vous êtes, on est inséré dans un réseau horizontal en quelque sorte, mais pour exister de plein d'exercices, pour exister comme personne à part entière, il faut s'inscrire dans une dimension longitudinale du passé vers l'avenir. On n'a pas d'avenir s'il n'y a pas une certaine forme de passé qui reconstruit. Et là, on bute terriblement sur le problème de l'origine, justement, que vous évoquiez tout à l'heure. Vous parliez du mur de Planck. Il y a un mur de Planck dans l'origine de chacun d'entre nous. Si loin que nous remontions, il se passe quelque chose en amont, qui est la fécondation dont nous sommes issus, qui est rigoureusement impensable. Personne ne peut se représenter soi physiquement comme il est, avec sa culture, ses habitudes, etc., comme étant l'instant où un spermatozoïde féconde un ovule. C'est impensable, pratiquement. D'autant que les acteurs de cette opération ne la pensent pas très bien eux-mêmes non plus.
Enfin, donc, c'est su, mais c'est impensable.
C'est su, mais ce n'est pas dissible, exactement, et ce n'est pas pensable. Alors, il y a ce mur de Planck, et toutes les opérations qui consistent à remonter jusqu'à l'origine butent dessus. Alors, ces opérations, elles sont en général épargnées à tous ceux qui bénéficient, vous l'avez dit tout à l'heure, d'un roman familial. C'est-à-dire qu'on raconte que papa et maman s'aimaient beaucoup, la cigogne est arrivée, tout ça va bien. Et moyennant ces fictions, chacun s'avance dans la vie avec, derrière lui, un bagage rassurant. Mais il y a des gens pour qui ce n'est pas le cas. Et notamment les héros qui débarquent tout habillés en 1929 sur le quai de la gare de Bruxelles, sans passé particulier. Et tous les autres, les Dupont, Haddock, tout cela. Et la question doit être élaborée.
Haddock a une histoire.
Mais elle n'apparaît, d'abord Haddock n'apparaît qu'au bout de cet album. Et puis lui-même a une histoire qui est très étrange et très bizarre, on va y revenir dans un instant. Il se pose la question de sa mère, puis après il va chercher un père qui est imaginaire. On ne sait pas comment il est connecté aux trois fils du chevalier de Haddock. Et puis après, il s'invente un prénom tout à fait à la fin. C'est extrêmement lacunaire, la généalogie de Haddock, qui est figurée par certains psychanalystes comme une sorte d'emblème du bâtard. Mais Tintin, bâtard ou pas, va chercher au fond à éclaircir cette question. Or, ce n'est pas dissible. Ce n'est pas dissible, notamment à cette époque, pour les filles mères. C'est-à-dire que lorsque une jeune femme accouche d'un enfant sans qu'un père ne soit déclaré, eh bien, en général, il y a des drames qui se passent. L'enfant peut être tué, peut être placé à l'assistance, peut être dénié, et même quand on les laisse en vie, il souffre énormément socialement du statut qu'il leur est fait. Et je pense que cette ambiance culturelle de l'époque, notamment dans la Belgique catholique où vivait Hergé, a dû montrer le caractère tragique qu'il pouvait y avoir à ne pas accéder à ses origines ou à ne pas être débarrassé du problème des origines, l'un ou l'autre. Eh bien, toute l'aventure de Tintin, c'est en cet album d'aller chercher les origines, de les régler, et puis de découvrir qu'on en a fait que la moitié, on a réglé la question du père avec le sceptre d'Ottokar, on rend son sceptre au père, Mais la femme arrive exactement au même moment, c'est la Castafiore.
Mais dans les 7 premiers albums, il voyage partout, il va au bout du monde.
Alors, c'est une des démarches qui est assez naturelle au fond.
Est-ce que c'est une quête de soi ?
C'est à la fois une quête de soi, on va s'accomplir dans diverses aventures, on va redresser des torts, on va arranger des situations, on va découvrir des secrets. Et à chaque fois, c'est non pas un échec, mais une déception parce qu'il faut recommencer. Après une aventure, il y en a une autre, une troisième, une quatrième. Et donc, c'est une manière de fuir la question. Au fond, par rapport à un problème aussi lourd que celui que je viens d'évoquer, il y a 3 solutions. Ou bien on fuit, ou bien on recherche la solution de la toute-puissance. C'est ce que Haddock va faire en cherchant, par exemple, parce qu'il est dans le même cas de figure, il arrive aussi tout nu au départ, il va chercher à avoir un ancêtre qui a été chevalier du roi, qui a été chef, commandant d'un galion, qui avait un trésor, qui avait un château. Ou bien encore, on va avoir la puissance de diriger une fusée, par exemple. Ou bien on va avoir la puissance de commander un pays, comme le prétend le général Alcazar. Bon, c'est une deuxième solution. Elle est encore pire que la première, parce que celle-là, malheureusement, elle a des effets. La première, elle se dissipe au fur et à mesure, la seconde a des effets. Souvenez-vous que nous sommes en 1929, 30-31, jusqu'à la guerre. On est en pleine période où le communisme, le nazisme, expérimente à l'échelle globale des solutions de ce genre. Un totalitarisme. La troisième solution, c'est d'être humble par rapport aux problèmes qui se posent et d'aller à la recherche des pistes, des traces, des éléments, sans jamais conclure prématurément. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y faut 24 albums, alors qu'un œil un peu aiguisé, au bout de 6 vignettes de Tintin au Congo, a compris où est le problème. Mais Tintin mettra 24 albums à le résoudre. Et c'est très bien comme ça. Parce que justement, ça permet au problème de se décanter, à travers sa propre démarche, à travers les autres personnages qui essaient des solutions qui vont plus ou moins bien, et puis surtout à travers la distillation subliminale des signes, qui passent très très lentement, tout doucement, et qui finissent par se condenser de manière extraordinaire, ça c'est Michel Serres qui s'en est émerveillé, dans Les bijoux de la Castafiore.
Quoi ? Monsieur, c'est la télévision.
La quoi ?
La TV, monsieur. Oui, dans la cour, avec les voitures, les reporters, les caméramans, les projecteurs, enfin tout, quoi. C'est Madame Castafiore qui les a convoqués. Un reportage sur elle, je crois.
Oh, Tintin ! Un whisky bien tassé et sans eau. C'est pour un homme au bord de la 50.
Entendu, capitaine, entendu.
Comme nous ne connaissons pas par cœur tous les albums de Tintin, Philippe Rade, est-ce que vous pouvez nous décrire les grandes étapes de cette, quête de l'origine, fuite de l'origine, retour à son self, je ne sais pas ce qu'il faut dire.
Alors, 24 albums, il faut en écarter le tout premier qui est Tintin chez les Soviets et qui, de l'aveu même d'Hergé, était une succession de planches nourries par des gags extravagants, d'ailleurs Tintin peut piloter une locomotive, rouler sur 2 roues dans une voiture, enfin des choses tout à fait extravagantes, et qui était essentiellement une charge polémique contre l'URSS du moment. Bien. Donc, d'ailleurs, il n'a jamais été réédité, il est resté en l'état de cette époque. Et puis, il y a 2 autres albums à l'extrême fin qui sont intéressants. Tintin chez les Picaros, et avant lui, Vol 714 pour Sydney, que j'appelle des albums de la déception. C'est-à-dire que désormais, le monde redevient terne, nul, sans véritables aventures.
Mais on retrouve Tintin dans le titre. Comme alors, dans les 2 premiers
alors,
albums.
On retrouve Tintin dans le titre, dans le tout dernier.
Et après, il disparaît.
Alors, c'est intéressant que le titre ait disparu. D'ailleurs, il y a eu Tintin chez les Soviets, Tintin au Congo, Tintin en Amérique, et in fine, Tintin au Tibet et Tintin et les Picaros, qui sont un couple d'antonymes. Ça prouve qu'au bout de 3 albums, Tintin était assez célèbre pour qu'on se passât de son nom dans le titre. Mais ça signale également qu'il est plus particulièrement présent dans des situations qui sont les 3 premières, celle du Tibet et celle des Picaros. Et on va les décrire en un instant. Les 3 premières, c'est des gags. Alors des gags tout court avec une haine de l'objet des gags, c'est les Soviets. Des gags avec un enthousiasme pour l'objet des gags, c'est le Congo. Et puis des gags avec une fascination et en même temps une répulsion pour l'Amérique. Et puis après ça s'arrête et on entre dans les choses sérieuses avec les cigares du pharaon. Tintin revient dans le titre au Tibet. On aura peut-être l'occasion d'en dire un mot tout à l'heure, mais le Tibet c'est vraiment l'apogée de toute l'œuvre. C'est à ce moment que Tintin, faisant fi de toutes les objections, de toutes les mises en garde par Tournesol, par Haddock, par Milou, dans l'absence des Dupont, en l'absence de la Castafiore, va là où il croit devoir aller, c'est-à-dire à la rencontre de l'autre qui est en fait son double, Chang, sauvé des eaux, autrefois. Et puis Tintin revient enfin dans les Picaros pour conclure. Cette fois, justement, c'est Tintin et les Picaros, mais l'horreur, c'est les Picaros. Autant le Tibet, c'était l'épuration, la noblesse, la neige. Je sais que je parle à un montagnard, donc vous devinez de l'intérieur l'émotion qu'il peut gagner quand on monte là-haut. Mais Tintin chez les Picaros, c'est lamentable. Le sceptre devient un cigare tenu par un roi de carnaval qui ressemble à un Gilles des fêtes belges. Enfin, on est au bord de la vulgarité.
Alors, vous accordez une place tout à fait centrale à deux albums dont vous dites qu'ils se font écho l'un l'autre. Tintin au Tibet, on en a parlé, et puis Les bijoux de la Castafiore. Alors, vous aimez les anagrammes, hein, et évidemment, ça nous plaît beaucoup, comme vous le savez, et vous faites remarquer que Tintin au Tibet a pour anagramme Tintin habite, sans S, habite, tu.
Oui.
Alors, est-ce que vous en tirez quelque chose? Est-ce que c'est un sens caché?
Parce que le lotus bleu, c'était le tu soluble.
Le lotus bleu, c'est le tu soluble.
Et oui.
Le problème, c'est qu'un lotus n'est jamais bleu, il est toujours blanc.
Oui, mais ça, Hergé s'en a expliqué, effectivement. Il l'a appelé lotus bleu, comme ça, comme un café peut s'appeler le cerf d'or.
Le ou café rouge.
Ou le café rouge, ou peu importe, ou le moulin rouge. Donc c'était un nom jeté, mais assez bien trouvé, finalement, puisque ça a permis d'avoir une couverture toute rouge, justement. Et ça encore, c'est la seule couverture toute rouge. Elle évoque le sang, elle évoque peut-être aussi la naissance. On y voit un jeune Tintin qui sort d'un pot, comme un enfant qui sort d'une poche marsupiale ou d'une qui naît et qui est attendu par un hippogriffe.
C'est à propos du rouge, si vous me permettez, il y a un autre livre qui sort en même temps que le vôtre, qui s'appelle Hier Tintin de Benoît Peters, à la fin duquel il y a une longue interview d'Hergé réalisée en 77. Et à propos du rouge, Hergé dit ceci: je n'aime pas le sang, mais j'aime le rouge.
Alors c'est pour ça qu'il y a une seule couverture dans laquelle tout est rouge. La couverture du lotus bleu, et qui, à mon avis, emblématise complètement le problème qui est inhérent à la condition humaine, c'est que lorsqu'on naît, on est menacé de mort, en réalité. On est menacé de mort si on ne fait que naître d'une femme. Il faut que, d'une manière ou d'une autre, soit par la femme, soit par un père, soit par quelqu'un, un nom soit donné. Une autorisation de vivre soit donnée par la reconnaissance. Et ce phénomène est absolument fondamental, et elle n'est donnée par personne, donc Tintin va se la donner à lui-même, au Tibet, en allant rencontrer l'autre, c'est-à-dire habiter la relation de je à tu. Il n'y a pas de je s'il n'y a pas tu.
Alors, vous dites, justement, à propos de Tintin au Tibet, il s'agit d'une œuvre philosophique majeure qui fait le lien entre Freud et Lévinas. Bigre.
Alors, plutôt que Freud, j'aurais dû citer Jung, puisque Hergé s'est fait soigner par le docteur Rifkin, qui était un Jungien de Zurich, et qui lui a demandé...
C'était pas Riclin ?
Riclin, c'est exactement ça, oui. C'est pas Riclès, c'est Riclin. Et qui lui a conseillé de se débarrasser du démon de la pureté. Freud est cité ici parce que toute cette aventure a évidemment une dimension psychanalytique majeure. Il s'agit de régler ses comptes avec le fait d'être né d'une femme, sans savoir exactement quel homme a été la cause que cette femme soit devenue mère, ni qui, ni comment. On a un nouvel anagramme en anglais entre who et how, comment et qui, on ne sait pas. Et c'est une question qui taraude tout le monde, même quand on a un roman familial. Lévinas, pourquoi ? C'est que c'est la solution. Si on remonte par la voie freudienne ou même jungienne vers cette question de l'origine, on n'a jamais la réponse, on l'a dit tout à l'heure. En revanche, si on se dirige avec Lévinas vers l'idée du face-à-face, du visage-à-visage, alors on fait naître la transcendance. C'est-à-dire que chaque visage étant différent de celui qu'il regarde, eh bien la relation à l'autre est évidente dans le face-à-face, et c'est exactement ce qui se passe au Tibet.
Avec Chang.
Il y a un mot extraordinaire. Chang est vivant au début du Tibet. Quand Tintin avait sauvé Chang des eaux dans le lotus bleu, le premier mot qu'il dit, c'est « il vit ». Et quand il le retrouve, Chang lui, qui ne sait pas encore qui arrive, lui dit « qui parle ?». Donc la parole, qui suppose le vis-à-vis, qui suppose le face-à-face, est le lieu où l'on peut habiter pour être affranchi du problème de l'origine.
D'ailleurs, il fait un rêve prémonitoire, Tintin. Il voit Chang vivant après cet accident d'avion.
Oui, mais ce rêve n'est pas montré, à la différence de beaucoup de rêves qu'Hergé a dessinés. Il est manifesté par un cri, simplement. Il est raconté, effectivement, puis le cri de Chang, le mot, le nom, jaillit le nom, tient lieu et du rêve et de la réalité.
En même temps qu'un éternuement, si je me souviens bien.
Alors c'est pris par un éternuement par tout le monde. Et justement, c'est très intéressant. Il y a des gens, par exemple, qui, croyant mettre de l'essence dans leur voiture, mettent du gasoil ou l'inverse. Ça n'arrive qu'au meilleur. Eh bien, là, c'est caractéristique. Tintin, en criant Chang au milieu du grand salon de Vargès, où tout le monde est réuni paisiblement, fait brusquement faire irruption au problème de la survie de Chang dans la situation présente. Et tout le monde le prend pour un éternuement. Tout le monde résorbe la chose comme un éternuement. Et après, on va le résorber en disant que c'est le nom d'un petit chien. Et après, on va dire que Chang, c'est le nom de quelqu'un d'autre. Et il fera une opiniâtreté extrême de la part de Tintin, une certitude que Chang est vivant, pour aller le chercher quand même et le sortir de la grotte où l'Aïeti l'a enfermé et retenu.
Pourquoi vous dites l'Aïeti ?
Alors, je dis l'Aïeti parce que le Yeti en question, l'abominable homme des neiges, est un personnage très ambivalent, très ambigu. Traditionnellement, il est nommé homme. Fonctionnellement, il a l'air costaud, puissant, énergique comme un homme. Mais sa vraie raison d'être dans ce récit, c'est d'incarner la manière dont les femmes qui n'ont pas pu avouer l'enfant qu'elles ont, le conservent d'une manière ou d'une autre. Alors, pas toujours matériellement, et pas toujours dans une grotte, et pas toujours en étant velu comme un Yeti. Mais psychiquement, oui. Quelqu'un qui n'a pas pu être libéré de sa relation amniotique avec sa mère par le fait qu'un cordon ombilical symbolique ait été coupé par le nom que le père lui donne, celui-là est prisonnier d'une manière ou d'une autre de la grotte de l'Aïeti.
Bon, écoutez, Philippe Pratt, moi je suis stupéfait de voir que tout ça est dans Tintin. Je ne l'avais pas lu comme ça, mais...
En quoi vous êtes comme Hergé ? Hergé avait répondu à Michel Serres, écoutez, je suis émerveillé de tout ce que vous trouvez dans Tintin, je n'y avais pas mis, mais si ça y est, c'est formidable.
Mais votre chapitre s'intitule « Tant que Yeti... » Y es-tu, tu n'y es pas.
Oui, parce que...
C'est ça que ça veut dire ?
Oui, c'est exactement ça. Si le Yeti symbolise cette rétention, en quelque sorte, je vais prendre des mots un peu crus, mais intravaginal, à l'intérieur de soi, par la mère, qui n'a pas pu se libérer de l'enfant en le confiant à la société via l'assentiment d'un père, le Yeti symbolise ça. Autrement dit, ça veut dire que le Yeti est celui qui symbolise le fait que l'on tait l'autre, on tait le nom de l'autre. Il est tu. Et donc, tant que cette vérité de la venue au monde, naturelle, normale, légitime, heureuse, bienvenue, est tu, pour des raisons diverses...
Là, vous prenez tu dans le sens, ça va avec le verbe taire, mais ça peut être le tu-toi.
Et alors, justement, tant qu'elle est tu, il n'y a pas de tu au sens toi. Tant que la vérité est secrète, cachée, scellée, si vous voulez, qu'elle n'est que du cela, alors il n'y a pas de toi, et il n'y a donc pas de je. Pas de jeu au sens JE et pas de jeu non plus au sens JE.
Ça fait une démonstration presque mathématique, ça.
Certes, difficile à passer à la radio, mais exact quand même.
Est-ce qu'il y a des rivalités et des désaccords chez les tintinophiles ?
Oh, c'est une communauté en effervescence, comme toutes les communautés de passionnés. Il y a des hérétiques,
L'hérésie, ça pourrait consister à dire quoi, par exemple, sur la place de la femme dans Tintin ?
Il y a des gens qui, assez sottement, je crois, ont considéré qu'Hergé était misogyne. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans son roman, j'appelle ça le roman, vous voyez, c'est un roman général dans son œuvre. À part une très belle hôtesse de l'air, toutes les femmes sont des mégères.
Qui n'apparaît qu'une seule fois.
Mais je crains que cela n'ait pas du tout lu Tintin, parce que Tintin, c'est un hymne à la femme. Simplement, c'est très très difficile de lui faire sa place.
Enfin, il dit dans l'interview qu'on citait tout à l'heure, tous mes personnages sont des caricatures, or je n'aime pas caricaturer les jolies femmes.
Eh bien, il se trahit en disant ça, voyez-vous, parce que...
Non, mais il dit que s'il l'avait fait, on l'aurait accusé d'être misogyne.
Certainement, on l'a accusé d'être raciste, on l'a accusé d'être colonialiste, sur la base d'indications qui sont effectivement réelles, mais qui ne mènent pas bien loin. Je veux dire que c'est un procès en sorcellerie qu'on ne fait pas à Céline et qu'on fait à Hergé de manière tout à fait erronée. Quand il dit qu'il ne voulait pas caricaturer les femmes, c'est qu'en fait, il ne parle que de ça dans toute son œuvre, en ne parlant jamais de femmes qu'il présente. Pourquoi ? Tintin, au départ, il n'a pas de mère apparente, il n'a pas de relation familiale. Et donc, la question de savoir comment on peut être au monde, alors qu'on sait qu'on vient au monde par des femmes, doit être élaborée. Et elle est élaborée d'abord sous l'apparition de la Castafiore, qui est un personnage extérieur. Puis, sous tout un travail qui se passe en cet album pour créer un père. Un père symbolique, naturellement. C'est pas un père physiologique. C'est Tournesol, qui va être sanctifié dans l'expédition au Pérou. On va aller le chercher, le père, où est le père, on va le trouver. Et il est sanctifié par l'union du soleil et de la lune. Ensuite, c'est lui qui, avec sa fusée, va aller sur la lune, et donc prendre la maîtrise de l'élément femelle qui est la lune, et qui va revenir tranquillement, régner par ses ondes, à travers le château et ses environnements. Donc, Tintin fait une élaboration, on introduit la femme, on met en place le père, on accède à soi, et alors la femme peut enfin être reconnue pour ce qu'elle est tout naturellement, c'est-à-dire quelqu'un de remarquable, d'admirable, de beau, de sympathique, et qui est vouée à avoir une vie sexuelle. Et c'est là où la Castafiore, dans le dernier album intéressant, je crois, qui est Les Bijoux de la Castafiore, vit une défloration, mais qui évidemment n'est pas montrée. On n'a pas fait un dessin pornographique.
Si je ne me trompe pas, castafiore en italien, c'est la fleur chaste.
C'est la chaste fleur, oui, absolument.
La chaste fleur.
Oui. Elle reste une chaste fleur jusqu'à ce moment, mais si
vous regardez... Est-ce qu'Hergé, quand il la nomme ainsi, est conscient de ce que ça va provoquer comme interprétation chez vous?
Quand il en parle ex post, ça l'amuse, parce qu'il dit qu'il l'a trouvée par hasard, mais enfin, il n'a pas échappé que ça avait ce sens-là en italien. Comme elle est italienne, c'est facile de traduire. Et je pense qu'il a pris appui sur ce nom pour pouvoir la traiter en permanence comme quelqu'un qui est dans un désir piégé. Elle se regarde toujours dans son miroir. « Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir. » Et donc, elle est piégée dans le rapport à soi. On est aux antipodes de Lévinas. On n'est pas dans le regard vers l'autre. On est dans le miroir intérieur. Les miroirs jouent un très grand rôle dans cette œuvre. Et il y a deux personnages qui symbolisent le miroir l'un de l'autre, c'est les Dupont, qui sont piégés dans leur gémellité, en quelque sorte. La castafiore aussi.
Et elle est une lettre qui les sépare, quand même.
Il y a une lettre qui les sépare, mais c'est pas grand-chose. C'est une distinction que certains pédants ont développée en disant l'un c'est Dupont, alors c'est du podium, il est un noble, l'autre c'est Dupont, c'est un clochard qui vit sous les ponts. La nuance n'est pas nulle, parce que le problème du père, c'est quoi? C'est de savoir si c'était un grand seigneur, ou si c'était le facteur, ou un trimard, ou quelqu'un de passage. Et c'est une question qui est récurrente dans Hergé. Alors les Dupont la résolvent en disant, ils sont les mêmes. C'est une seule et même personne en deux personnes. Mais c'est une fausse réponse. On voit que ça les fait tourner en rond dans le désert. On voit que ça les mène à dire toutes sortes de sottises, à se répéter en se trompant. Il faut sortir de cette gémellité, sortir de cette dualité qui est omniprésente à travers toute l'œuvre, en se singularisant. Mais se singulariser, c'est pas se mettre à part. C'est aller chercher un vrai autre. Parce que Chang, il est chinois. Il est petit, il est lointain, il est miséreux, il est malheureux, il est prêt de mourir. Il n'est pas du tout le même de Tintin. Il n'est pas à Tintin comme Dupont à Dupont. Il est même le contraire.
Et comment est-ce qu'évoluent les relations affectives entre les personnages? Elles se développent régulièrement. On voit que dans Les Bijoux de la Castafiore, il y a des relations affectives entre Tintin, la Castafiore, entre la Castafiore et Haddock. Ils sont même mariés par la presse, je crois.
Oui, oui, mais de manière factice. C'est-à-dire que la presse, comme c'est fréquent, se trompe sur les mots, sur les noms, sur les lieux, etc. et invente un peu n'importe quoi. Mais disons que les personnages, ils apparaissent les uns après les autres, au fur et à mesure. Les Dupont sont là tout de suite, ensuite il y a Haddock qui arrive, ensuite il y a Tournesol, et ils viennent à faire une famille progressivement. Et évidemment, dans une famille qui se fréquente et qui est constamment stabilisée, parce que les différents rôles se répondent les uns aux autres, des relations de nature plus affective peuvent apparaître. Mais ils sont convenus dans tous les albums jusqu'à la Castafiore. Et pourquoi, dans Les Bijoux de la Castafiore, une certaine dimension d'émotion commence à traverser le récit, le dessin, les paroles et les rapports? C'est parce que justement Tintin, ayant réglé la question de l'origine en choisissant de lui tourner le dos pour s'occuper de lui-même et de son rapport à l'autre, laisse libre le champ des sentiments. Ils ne sont plus dangereux, ils ne sont plus inquiétants. Il n'y a pas lieu de s'en défendre, il n'y a pas lieu de les fuir en ayant des aventures au bout du monde, il n'y a pas lieu de s'en protéger par des aventures scientifiquement extraordinaires, il n'y a pas lieu de lutter contre. On peut laisser aller, on peut donner un peu de mou. Et il y a une scène extraordinaire qui ne parle pas de sentiments du tout, mais Tintin en pyjama va dans la chambre de la Castafiore en robe de nuit et il se penche à la fenêtre et dit « Il n'y a rien, madame, absolument rien. » C'est merveilleux, il y a juste la lune qui plane, c'est la féminité. Vous savez que les Grecs qui étaient des barbares achéens, qui avaient des dieux virils et violents, ont accueilli avec bonheur l'arrivée d'Aphrodite qui leur venait du Levant. Mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'après plus de 20 albums, enfin un peu d'aisance, de féminité peut arriver.
Mais comme Hergé disait qu'il était inconscient de son inconscient, où se trouve son génie?
C'est
d'avoir... Vous parlez du génie d'Hergé, donc c'est son inconscient qui était génial?
C'est d'avoir été inconscient de son inconscient, parce que il a été habité, je crois, par cette problématique, sans jamais la formuler ni la nommer, de sorte que, pour la résorber, parce qu'elle lui pesait peut-être autant qu'à tout autre, pour tenter de l'éclaircir et pour s'en défaire, il a fallu qu'il passe par le truchement d'une perfection professionnelle, en quelque sorte. Il a inventé ce héros, qu'il a petit à petit, par cheminement, par tâtonnement. Il raconte d'ailleurs qu'il n'y avait pas de plan prédestiné. Il a improvisé beaucoup de choses en cours de route dans la construction de ses ouvrages. Il a laissé venir un certain nombre de choses qui sont inscrites progressivement dans la trame des aventures, en obéissant à des lois formelles, rigoureuses. Il faut que la page commence d'une manière stimulante, qu'elle se termine de manière qui renvoie à la suivante. Enfin, tout ça est construit de manière très très bien. Et ça l'a conduit à faire une œuvre que j'appelle fractale, en ce sens que, si petit que soit l'élément que vous en prenez, ou si grand qu'il soit, la totalité, vous avez en permanence la même résonance qui vous vient à l'oreille et qui est un peu comme la mer au bord de la plage quand elle arrive avec ses vagues successives, qui est le bruit de fond, en quelque sorte, de cette problématique.
La mer, M-E-R, hein.
Oh, j'aime bien la faire basculer d'une orthographe à l'autre.
C'est pour ça que je précise.
Parce que, par exemple, quand Haddock entre en scène, il est dans sa cabine, Tintin arrive par un hublot, comme c'est curieux, un tout petit hublot, il naît par le hublot, et premier mot qu'il dit au capitaine Haddock, que penserait votre vieille mère s'il vous voyait en train de vous enivrer? C'est la première fois qu'on parle d'une mère. Et effectivement, on a quelqu'un qui oublie les problématiques que laisse à l'enfant sans père. Le malheur d'exister sans identité, c'est de boire, par exemple. Le whisky est une manière de se résorber. Il y a trois buveurs dans Tintin, c'est Haddock, Milou et le Yeti. Et Milou tient le milieu entre...
Le Yeti.
Ah, le Yeti boit, bien sûr. Rappelez-vous, il a volé la bouteille de whisky de Haddock, ce qui l'a rendu furieux. Oui, oui. Et le fait d'avoir été en état d'ébriété, le conduit à se cogner à des cailloux, de perdre son chemin, etc.
Descends donc, Cro-Magnon, macrocéphale, ectoplasme!
Pas crier, Saïb! Toi, causé avalanche!
Montre-toi donc, diplodocus, babois, mégalomane, flibustieux! Phylloxera, encombrant de cyanure!
Courir, Saïb!
Anthropopithèque, vampire, poisson, soir!
Alors, ce que vous disiez tout à l'heure à propos de Lévinas, Philippe Rath, on le retrouve... d'une façon qui montre que Hergé était en partie conscient de son inconscient. Dans l'interview que nous citions tout à l'heure de 77, il dit « Au fur et à mesure que les années passent, j'éprouve plus de respect pour l'autre. » Il a le remords de s'être moqué des Incas qui ont paniqué au moment de l'éclipse, alors qu'il a appris que les Incas étaient parfaitement capables de prédire les éclipses et de comprendre qu'elles étaient provisoires.
Oui, on a des jalons comme ça, par exemple Tintin au Congo, ou même Tintin en Amérique. C'est un personnage qui est l'objet du récit, et qui rencontre des situations extérieures, lesquelles sont prises comme des chromos, en quelque sorte, des situations données. On ne tient pas compte de ce que sont vraiment les autres, ou à peine. L'entrée en scène de Chang dans le Lotus Bleu donne lieu à une demi-page absolument extraordinaire, où Tintin et Chang, ensemble, déconstruisent les schémas tout faits que l'on a les uns sur les autres. Les Occidentaux croient que les Chinois tuent les bébés à la naissance, que les femmes ont des pieds resserrés dans des petites chaussures, etc., etc. Et les Chinois croient que les Occidentaux sont des barbares. Et Tintin et Chang se racontent ça mutuellement et en rient beaucoup. Donc on déconstruit les clichés tout faits pour accepter la différence de l'autre, sa singularité.
De même que dans la Castafiore, il y a les Romanichel qui sont immédiatement accusés de vol.
Ah oui,
et Tintin les défend.
Mais par les imbéciles, par les Dupont. C'est-à-dire Tintin non seulement les défend, mais vit avec eux probablement ce moment d'émotion, comment dire, pas dire sentimental, mais presque le plus grand, lorsqu'ils s'approchent de leur roulotte la nuit, écoutent leur musique, qui fait contraste avec celle qu'on entend au château, celle de la Castafiore, et trouvent ça merveilleux. Ils voient sous la lune une très jolie femme, exactement sous la lune, un homme qui tient une guitare, un enfant, une famille réunie, unie, belle, et il fait demi-tour en disant quelle nostalgie dans cette musique, hélas, il faut rentrer. Donc il renonce à aller jusqu'au bout de son parcours, c'est-à-dire à son tour fonder une famille, de vivre comme ça, mais il a été sensible à ça, et ses pages sont absolument magnifiques, y compris sur le plan artistique. Vous voyez, je voudrais, puisqu'on parle de beauté plastique et de beauté picturale, je voudrais faire une référence précise à une œuvre fondamentale dans l'histoire de la peinture occidentale, si vous m'accordez le droit de parler de choses qu'on ne voit pas.
Vous avez tous les droits.
Bien.
Nous sommes à France Culture.
Je fais référence ici à l'œuvre d'Ambrogio Lorenzetti, qui est la Madone, qu'il a peinte en 1344 à Sienne. Cette œuvre est célèbre. C'est Daniel Arras qui en a exploré le contenu, et il faut lui rendre un grand hommage de ce point de vue, pour avoir été la première, sans doute, dans laquelle la perspective a été utilisée. Alors, de quoi s'agit-il? C'est une annonciation. Chacun peut se la figurer ou la vérifier sur Internet. Vous avez à gauche l'ange, à droite Marie. Chacun des deux, sous une arcade de type gothique trilobée, pour suggérer la Trinité, qui est évidemment présente dans ce moment particulier. Et tous les deux sont posés sur un carrelage en perspective, qui se va vers l'horizon. C'est là que ça devient intéressant, parce qu'au milieu, il y a une colonne, et la ligne de fuite de ce carrelage en perspective est exactement derrière la colonne. La dite colonne, dans la partie supérieure, qui est encore dorée, comme dans les enluminures, comme dans les mosaïques byzantines, se fond dans le fond supérieur, alors qu'en bas, elle apparaît très clairement en avant de ce pavement.
Par contraste avec le carrelage.
Voilà. Eh bien, ça, c'est fait pourquoi? C'est pour nous montrer ce qui ne peut pas être montré, à savoir l'incarnation. On peut nous raconter l'annonciation. Mais montrer l'incarnation, c'est physiquement impossible. Ou alors ça se passe dans une salle d'accouchement ou de fécondation, ça ne peut pas se faire. C'est la colonne qui le montre. La colonne est à la fois l'endroit vers lequel converge l'espace terrestre derrière, ça c'est la philosophie chrétienne, elle est l'endroit qui participe de la majesté divine, c'est le doré qui est en arrière, et à travers lequel les paroles des deux passent. Et puis il est terrestre en même temps, en ce sens qu'elle est bien posée par terre, et que la jupe ou la robe de la Vierge passe derrière, pour bien montrer qu'elle est par terre. À quoi est-ce qu'on assiste ici? On a inventé la perspective pour pouvoir montrer, manifester l'incarnation. En un temps, on commençait à ne plus prendre pour argent ou pour or comptant cette histoire d'incarnation. Il fallait la montrer. Mais on ne peut pas la montrer. Alors on choisit une méthode, qui est la perspective, pour dire ça c'est la Terre, c'est mesurable, c'est organisable, et là c'est Dieu. Et entre les deux, il s'est passé cette incarnation. Vous voyez que
c'est terrible.
Tout votre univers, la science, est né de la nécessité de montrer l'incarnation.
Vos démonstrations sont implacables. Donc je ne sais même pas comment pouvoir les contester.
Mais on peut les rapprocher d'autres démonstrations. Par exemple, rappelez-vous du livre de Gérard Simon qui montrait comment Kepler avait inventé l'astronomie parce qu'il s'intéressait à l'astrologie. Eh bien, de la même façon, Hergé invente la bande dessinée pour traiter un problème qui est justement entre Freud et Lévinas. Je ne sais pas s'il connaît l'un et l'autre d'ailleurs, mais qui sont les deux pôles du chemin qu'il parcourt. Mais Lévinas, très bien. Il invente la bande dessinée pour en parler parce que c'est le moyen de traiter ce qu'on ne peut pas dire. À l'époque où il écrit, et encore aujourd'hui, on ne peut pas aisément parler de ces questions d'origine.
Donc
de
vous voulez dire que la bande dessinée vue par Hergé, c'est la réplique de l'invention de la perspective, voilà, pour montrer l'incarnation.
Et de la même façon que l'invention de la perspective a permis à la science de se développer, ça se passe à Sienne, à deux pas de Florence, où Galilée va ensuite faire presque le saut quantique que l'on connaît. Et bien de la même façon, Hergé est un des premiers, avec Alain Saint-Augan, à introduire dans la bande dessinée la bulle qui se trouve dans le dessin et non plus en dessous, comme dans le Sapeur Camembert, par exemple. Et cette bulle dans le dessin est un moyen très intelligent, parce que le texte, qui est censé dire les choses, participe de l'image. Donc l'image devient loquace, alors qu'elle n'était simplement que des gags commentés chez les Américains. Lui en fait la trame d'un moyen de faire progresser la pensée, la science, la problématique qu'il traite. Et il fait de la bande dessinée un outil, une manip, vous diriez en physique, une manip pour arriver à traiter cette question abominable qui est: comment diable est-ce que moi je peux être né des choses qui sont passées sous une couverture quelque part, avec qui, comment, quand, je ne sais pas, vers l'idée, je suis moi, je suis en relation avec l'autre, je reconquiers ma dignité, j'ai ce geste qui vous échappe et qui vous fonde, qui est la volonté d'aller jusqu'au bout, et à partir de là, le monde se réorganise. On s'aperçoit d'ailleurs que ce n'était pas si grave, les questions d'origine, que les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, chacun a son rôle, Tournesol peut jouer au petit mâle conquérant, la Castafiore peut jouer à la Vierge effarouchée mais qui arrive à ses fins, et le monde va bien. Les Romanichel sont là, ils ne sont pas si méchants que ça, c'est une simple pie qui a volé les choses, c'est pas un condor, c'est pas l'araignée géante, c'est pas... voilà. On entre dans un monde de petits animaux, de petits problèmes, de petits soucis qui se résolvent. Et même quand l'émeraude est perdue dans l'herbe, parler du pont, c'est pas si grave, parce que Tournesol est parti à Milan, lui, s'occuper du rubis.
Mais Philippe Rath, ce que vous expliquez, c'est que finalement Hergé a résolu de façon géniale un problème, celui de l'origine, dont il n'est pas conscient que c'est son problème. Est-ce que ça renvoie à sa propre biographie, à sa propre histoire ?
Ce serait aventureux de l'affirmer, c'est probable, c'est possible, c'est difficile en tout cas d'en séparer, ça, clairement. Mais j'aime bien ce que lui-même avait dit à Bonapéter, justement, et que je vais citer textuellement. Je pense que c'est par l'analyse des albums, et uniquement par leur analyse, que ce travail devrait pouvoir se faire, le travail d'élucidation de sa relation à son œuvre. C'est ce que j'essaie de faire en m'interdisant absolument toute lecture autre que les albums. Et c'est uniquement les images, les textes, l'enchaînement des choses qui m'a communiqué ce sentiment que vous venez de dénoncer très bien. L'œuvre de Hergé est un viatique pour apprendre, chacun d'entre nous, sans effort, facilement, une sorte de psychanalyse homéopathique, comment se débarrasser du problème de l'origine. Pas en le reniant, pas en le fuyant, pas en le singeant, mais en acceptant qu'elle ait eu lieu et qu'on a mieux à faire que de s'en occuper.
Est-ce que c'est l'explication du fait qu'il continue à être lu alors qu'il est démodé, qu'il est lu par toutes les cultures ?
Alors, c'est une des réflexions qui m'ont fortifié dans l'intention d'aller plus loin dans la lecture de ce livre, parce qu'une œuvre tellement datée, qui présente les téléviseurs en couleur comme une innovation à l'époque où on n'en avait pas encore, et qui est encore aujourd'hui extrêmement vivante dans le monde entier, et qui nous parle, si longtemps après, a forcément plus à dire que les récits qu'elle propose. Même si ces récits sont très bien faits, même s'ils échappent au temps par leur caractère parfaitement maîtrisé, par les aventures qu'ils proposent, malgré tout, il y a plus que ça. Et ce plus, je pense qu'il est d'ordre pas forcément psychanalytique, même si la psychanalyse a à voir avec ça, mais c'est vraiment le fond d'expérience humaine. Chacun de nous est issu d'une relation sexuée, par conséquent, avec deux, on a fait un, et ce un doit parvenir à s'assumer, non pas comme singularité, mais comme potentiel de relation à l'autre, qui est refabriqué du deux à partir de un, et non pas du un à partir de deux. Et c'est cette différence, dans l'arithmétique, pardon, pour le physicien que vous êtes, c'est très simple, mais...
Ah non, c'est pas simple, la composition, c'est pas simple.
C'est pas si facile.
1 plus 1, ça fait 2, on est d'accord, mais une chose plus une chose, ça fait pas forcément 2 choses, même si ces choses sont identiques.
À l'appui de ce que je vous dis, un détail que j'ai découvert hier soir, vous voyez, c'est assez amusant, mais dans Tintin au Congo, Tintin faisait une leçon de géographie à des petits noirs, et il leur disait « Votre pays, la Belgique ». Alors, au bout d'un certain temps, on lui a dit « Ça va bien, arrêtez ça ». Qu'est-ce qu'il a mis à la place ? 2 plus 2 font combien ? 2 plus 2 égale, et la question est posée, combien ? Et il aurait pu choisir autre chose, Hergé.
Ça vaut 5 pour les grandes valeurs de 2.
Par exemple, voilà. Mais en l'occurrence, la question est ouverte. 2 plus 2 font combien ? On ne sait pas. Eh bien, c'est intéressant qu'il ait choisi ça. Ça montre qu'au départ, il avait fait un gag dans le cadre d'une propagande coloniale belge. Quand il y revient... Il a introduit un élément qui est en affinité, en assonance, avec tout le reste de la problématique, qui est d'échapper à la dualité. Tintin, si vous voulez, c'est... Si on voulait le résumer...
Et pourtant, son nom est la répétition d'une même...
Eh ben justement, c'est un nom dual, Tintin, avec 2 T, et il trouve son unité en se réunissant à Chang, qui fait le 3e, c'est comme le Saint-Esprit qui permet de résoudre la question du Père et du Fils.
Il faudrait l'appeler Tintin Chang.
Dans l'unité de la Trinité, c'est ça. On pourrait l'appeler... On l'appelle plus. C'est plus la peine de l'appeler. Il a retrouvé son unité. Chang est le seul personnage monosyllabique, à part quelques comparses qui disparaissent.
Donc c'est de la péricorèse, de la fusion sans confusion.
C'est de la fusion sans confusion. Tintin, c'est au fond l'incarnation de tout l'effort nécessaire pour échapper à l'abjection de la confusion. Vous savez, dans la pensée latine de l'Église, il y a une phrase extraordinaire. In te dominum speravi, non confundar in aeternum. J'ai espéré en toi, Seigneur, fasse que je ne sois pas confondu pour l'éternité. La pire des choses, l'enfer, c'est pas les autres, c'est la confusion, c'est le mélange, c'est la similitude, c'est l'assimilation, c'est la ressemblance. Il n'y a pas de phrase.
C'est le clonage.
C'est le clonage, c'est l'erreur absolue.
Or, d'ailleurs, dans l'oreille cassée, il y a quelque chose d'intéressant sur le clonage, parce qu'il cherche l'original de la statuette qui a l'oreille cassée, et il se rend compte qu'il n'y a pas d'original, sauf qu'à la fin, on en découvre un.
Il y en a un qui comporte effectivement le diamant.
Une sorte d'identité des indiscernables.
Et on voit qu'ils sont fabriqués en quantité infinie.
Industriel.
C'est intéressant, vous remarquiez ça dans l'oreille cassée, qui est un album précoce, puisque c'est le 5e, 6e, si on compte les soviets. Ce qui veut dire qu'à un moment où Hergé n'avait pas encore commencé à élaborer pleinement la problématique que j'ai essayé de cerner ici, il a déjà disposé des signes partout. Tintin au Congo, je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'araignée, le miroir, le perroquet, qui sont là tous les trois. L'araignée, c'est la force terrible qu'on doit affronter. Elle est petite, là, mais elle sera grande dans l'étoile mystérieuse. Le miroir, c'est le symbole du vis-à-vis, de l'enfermement dans soi qu'on a dit tout à l'heure. Et le perroquet, c'est l'équivalent, sauf que le perroquet, il a une autonomie. Et donc, il peut marquer un écart, faire une différence. De même que Milou, c'est un peu de Chang, mais c'est pas un homme, c'est un chien. Et donc, l'écart à Milou permet à Tintin d'échapper à ce qui, pour les Dupont, serait un clonage, il serait face à face. Lui, il est quelqu'un aussi, mais quelqu'un de différent. Et cette différence lui ouvre la possibilité d'un chemin long, difficile, courageux, périlleux. On ne compte pas les épreuves qu'il a rencontrées et les risques de mourir qu'il a connus. Quand il est sur le chemin de retrouver Tournesol au Pérou, il tombe quand même dans une cascade, manque de se noyer, passe par une grotte, enfin, il y a des situations très difficiles. Sur la Lune, quand Milou veut aller voir ce qui se passe au fond des grottes de la Lune, qui sont quand même le fond du fond de la féminité, eh bien il tombe. Et il tombe sur de la glace, qui est de l'eau congelée, comme chacun sait. Tintin, il tombe aussi, il manque de ne pas être récupéré parce que la corde s'arrête en cours de route. Enfin, il y a toute une symbolique qui est très facile à décoder et qui montre que c'est très très dangereux d'aller regarder de plus près ce qui se passe dans l'intérieur des mers. Avec le père, là où est passé le père peut passer le fils, me disait un de mes amis. Mais
Le père passera bien le fils.
C'est pas ce que l'inverse qu'il faudrait dire. Là où est passé le fils, il faut trouver un père. Et c'est difficile.
Et voilà. Je crois qu'ils ont compris, hein. Allez, viens, Milou, viens. En route, à la recherche de Tournesol.
Alors, Philippe Rat, si vous le voulez bien, on pourrait faire un petit peu de littérature comparée. Est-ce que vous pourriez produire une œuvre aussi riche, aussi cohérente, aussi poussée, à propos d'Astérix, par exemple?
Alors, je ne le crois pas plus qu'elle est à propos d'autres héros de bande dessinée, alors que la variété est infinie. Mais là, je crois qu'on a vraiment un cas tout à fait exceptionnel. C'est-à-dire, c'est une œuvre qui a été produite pour écrire des histoires, mais qui a aussi été écrite pour produire une histoire, et une histoire qui est celle de chacun d'entre nous. J'en veux pour preuve que, après y avoir réfléchi, Hergé a demandé qu'on ne poursuive pas son œuvre. Blake et Mortimer ont aujourd'hui des compléments, Astérix continuent à vivre, alors qu'Uderzo et Goscinny n'en sont plus les auteurs. C'est le cas de beaucoup de bandes dessinées parce qu'elles sont très rentables. C'est le cas de 13 également, enfin tant d'autres. Ici, c'est une œuvre qui est fermée sur elle-même parce qu'elle est un parcours. On n'ajoute pas un HLM à une cathédrale. Là, on est dans le cas d'une cathédrale, quelque chose de cohérent. Chaque chapiteau renvoie à la même histoire que le bâtiment tout entier, qui lui-même a une symbolique dans la ville tout entière. Voilà, quand elle est faite, et ça s'arrête là. Simplement, c'est une cathédrale absolument prodigieuse. Je me suis intéressé à ça tout à fait par hasard, quand je suis tombé entre les pages 24 et 25 du Vieux de la Castafiore, il y a très longtemps, il y a 4 ans maintenant, sur l'idée qu'elle venait de se faire déflorer dans les fourrés, après avoir mimé la scène d'une relation sexuelle avec Haddock via les piqûres sur son nez. Et à partir de là, j'ai tiré.
Vous rappelez cette scène? Parce que tout le monde ne l'a pas en tête.
La Castafiore rejoint Haddock qui s'est réfugié dans les fourrés du jardin et elle lui met une rose sous le nez dans laquelle il y a une petite guêpe qui lui pique le nez et le nez devient turgescent et rouge.
Rouge comme un feu rouge.
Rouge comme un feu rouge, dit-il, parce qu'il ne faut pas dire les choses comme elles sont. Mais la Castafiore est très près de lui. Il y a une véritable. Elle mime littéralement une situation de relation sexuelle qu'elle a désirée et manifestée très clairement. Et elle part ensuite toute guillerette, comme il est fréquent dans ce genre de cas. Et c'est à ce moment-là qu'une révélation se fait, entre la page 24 et 25, on ne la voit plus, ni en fin de 24, ni en début de 25, on entend un cri simplement. « Hi, j'ai perdu mes billets, j'ai perdu, mon collier s'est cassé », dit-elle. « Voyez la grande catastrophe qui m'arrive, mon collier s'est cassé ». Et bon, les choses sont dites quand même. Et ayant découvert ça, j'ai tiré le fil, et l'œuvre est infinie.
Si vous avez un chapitre qui s'appelle « Bijoux bouger, bougie rougie ».
Oui, c'est le plaisir des jeux de mots, mais... Le petit déplacement qui s'est fait, effectivement, dans la position de la femme dans la société humaine qui était décrite jusque-là, permet effectivement à des phénomènes assez courants dans la vie quotidienne de se produire, c'est-à-dire qu'une forme de vie sexuelle se manifeste. Discrètement, très très discrètement, c'est à peine lisible, mais elle est très présente.
Mais est-ce qu'il vous arrive de relire Tintin, encore aujourd'hui, et d'y trouver des choses qui pourraient invalider votre interprétation, ou au contraire, vous ne cessez de la conforter?
J'en ai trouvé qui ne cessent d'abonder les points de vue que j'ai adoptés. Encore hier soir, par exemple, je regardais la page 40 dont je viens de vous parler, où on voit la bande 2, à gauche, Tintin et Haddock qui écoutent la Castafiore, à droite de la même bande, des notes de musique en couleur qui viennent de chez les Tziganes. Et il y a là une polarité horizontale entre la case de gauche et celle de droite qui montre deux univers. Un univers triste, ennuyeux, sec, répétitif, c'est l'air des bijoux, et puis la musique tzigane qui est de l'autre côté et qui ouvre tout un autre univers. Bon, et j'en trouve pratiquement tous les jours, quand le hasard me met en présence un livre ou qu'on me signale quelque chose, je regarde et voilà.
Donc c'est une théorie qui est pratiquement irréfutable, tellement elle est validée.
Dans ce cas-là, il faut s'en méfier.
Oui, ça ressemble un peu à la psychanalyse.
Oui, mais il n'y a pas de psychanalyste, si vous voulez. Mais on pourrait dire quand même que l'ensemble de ces œuvres, et c'est beaucoup moins coûteux, est à peu près l'équivalent pour n'importe qui de ce que le divan est pour un analysant. C'est-à-dire que c'est un instrument qui permet de dire des choses, d'exprimer des choses qu'on ne pourrait pas dire autrement. Et sans avoir besoin de les dire, simplement en les laissant par percolation pénétrer doucement. Il est su.
Mais qu'est-ce que vous diriez si je vous disais là maintenant une chose qui me semble assez vraie, qui est que vous ressemblez à Tintin. Vous avez un petit chandail bleu ciel, des cheveux avec une houppe qui ne manquerait pas d'apparaître s'il y avait un peu de vent dans le studio.
Mais je dirais que je suis très content de ne pas être à la télévision, parce qu'il y aurait un démenti immédiat qui
non,
serait fait,
il y aurait une
et
preuve.
Ce serait embarrassant comme tout. Mais je voudrais dire un mot sur l'art de la BD, parce que je pense
vous
que...
Vous esquivez, hein
Après tout, il y a des ressemblances moins glorieuses que celles-là. Le général de Gaulle disait qu'il n'avait qu'un rival international, c'était Tintin, donc je suis en bonne compagnie, comme je l'ai dit. Mais je pense que cet art de la BD, si vous voulez, est extrêmement fécond, beaucoup plus qu'on ne le dit, il faut lui rendre justice. On vous dira, par exemple, c'est de la petite littérature. C'est le contraire. Dans une même case, vous pouvez avoir plusieurs personnages qui ont des comportements différents. L'un peut faire l'expression en creux de ce que l'autre ressent. Par exemple, quand Milou est en présence du Milou diable et du Milou ange, dans plusieurs occurrences, c'est une façon de représenter les stances qui habitent Tintin, qui habitent l'ensemble de l'œuvre, qui est de savoir où est le bien, où est le mal, comment faire, comment avancer, et comment dépasser.
Mais Tintin, il sait toujours où est le bien. Il l'incarne.
Non, il le cherche. Non, au début, il l'incarne, effectivement, chez les soviets, c'est lui qui est manifestement le héros positif. Mais plus le temps passe.
Mais il n'hésite jamais. Il n'est jamais tiraillé par des contradictions.
Non, parce qu'il a du discernement, mais il cherche les traces, il cherche les indices, il évite de se laisser embarquer dans des mauvaises opérations. D'ailleurs, la dernière aventure, il ne voudra pas y aller. Pour la première fois, une aventure lui est proposée, partir chez les Picaros, alors qu'il connaît bien l'endroit, il a vécu autrefois.
Il n'a pas envie d'y aller, quoi.
Il ne veut pas y aller. Ça n'intéresse plus les aventures. Et il sent le piège, il sent que le monde réel est captieux. si vous voulez. Capiteux et captieux, selon les cas de figure, il évite les deux.
Mais Hergé disait que son âge moral, celui de Tintin, était resté à 14 ans. Comment est-ce qu'il faut comprendre cet aveu ?
Je pense qu'Hergé ne voulait pas s'avouer à lui-même qu'il avait lui-même dépassé l'âge de 14 ans en écrivant cette œuvre. Parce que peut-être que ça aurait été un péché trop grand par rapport à ses origines, je ne sais pas. Mais en tout cas, non, Tintin évolue, il n'a pas 14 ans.
Il parle de l'âge moral.
Mais même en parlant de l'âge moral, l'âge physique évolue tout doucement, effectivement, très lentement. Mais l'âge moral, dès son plus jeune âge, si j'ose dire, dès le Lotus Bleu, on dit un tout jeune homme, presque un enfant. C'est comme ça que l'appelle M. Jiang Zhongji. Mais il agit déjà comme un adulte.
Dans je ne sais plus quel album, il est dans l'uniforme d'un policier.
Il est colonel auprès du général Alcazar, c'est ça ?
Il a l'air d'être tout maigre, tout petit, pas adulte.
Oui, là, il y a vraiment un petit oxymore entre l'uniforme et le personnage. Et dans le Lotus Bleu, ancienne version, en plus, il est très enfant. Mais dans l'ensemble, peu importe à lumière Tintin, c'est l'ensemble de l'évolution qui nous est proposée à nous, qui nous fait mûrir, qui nous fait grandir. C'est une œuvre féconde. Et un peu comme au théâtre, la bande dessinée, encore je l'ai dit tout à l'heure, offre plusieurs personnages en même temps. Un roman, vous les mettrez successivement. Et donc vous avez là des effets de syndrome, en quelque sorte, qui sont très porteurs.
Noble fils du soleil, excusez mon ami. Nous n'avons jamais voulu commettre de sacrilège. Nous voulions simplement retrouver notre ami, le professeur Tournesol.
Votre ami a osé se parer du bracelet sacré de Raskarkapak. Il sera lui aussi mis à mort.
Mais enfin, non, un petit peu.
C'est le soleil lui-même qui, de ses rayons, mettra le feu au bûcher qui vous est destiné.
Brûlé vif.
Quant à ces jeunes indiennes qui, en guidant des étrangers, a trahi sa race, il subira le châtiment réservé aux traîtres. Qu'il soit immédiatement égorgé sur l'autel du soleil.
Un million de
Quand je fais saisisse des traîtres.
Ta médaille, Zorino, ta médaille, montre vite ta médaille.
Philippe Rath, est-ce qu'on peut revenir sur la question de la Lune ? Qu'est-ce qu'elle incarne dans Tintin ? Vous avez signalé plusieurs occurrences. Comment est-ce qu'il faut la comprendre ? Cette présence de la Lune, de la femme, vous diriez ?
Tournesol fabrique deux sortes de machines, celles qui permettent d'aller sous Aphrodite, c'est-à-dire le sous-marin qui va dans l'eau, et celles qui permettent d'aller sur Artemis, c'est-à-dire sur la Lune. Dans les deux cas, il s'agit de déesses emblématiques extrêmement fortes. Artemis, c'est l'aînée, c'est une des déesses de la féminité, mais la féminité est redoutable. Et donc il faut la maîtriser, la dominer.
Redoutable dans quel sens ?
À tous égards. Par rapport au soleil, qui a toujours été perçu comme producteur de fécondité, de richesse, de vie, etc., la Lune est inquiétante, disons en tout cas. Or la Lune est extrêmement présente dans les aventures, toujours pleine. Et il y a une circonstance qui, au fond, donne la clé de tout. C'est lorsque, sur le bûcher où il va mourir avec Haddock et Tournesol au pays des Incas, Tintin, qui a prévu l'éclipse, invoque le soleil. Mais en fait, il ne parle pas au soleil, il parle à la lune. Il dit « Soleil, voile ta face », mais il est censé invoquer la lune qui va venir se placer devant le soleil, en effet. Donc la rencontre du soleil et de la lune n'est pas un phénomène furtif ou au hasard, et même une forme de viol, comme on peut se le figurer à propos des origines qu'on a, c'est une rencontre qui a été sollicitée par la parole de l'enfant. C'est-à-dire celui qui est sur Terre demande au père symbolique qui est le soleil et à la mère symbolique, la lune, de se rejoindre. Et en effet, ils se rejoignent et se recouvrent complètement. Et quand ils se recouvrent, le soleil est évidemment du côté de la face cachée de la lune, avec laquelle il fait ses petites affaires. Il est le seul à pouvoir la regarder, la face cachée de la lune. Symptomatiquement, lorsqu'ils vont sur la Lune, ils font une fusée d'essai d'abord, qui fait le tour de la Lune, et qui voit le côté caché. Mais cette fusée est captée par un mauvais père, le concurrent de Tournesol, celui qui veut capter la fusée. Et Tintin la fait exploser. On ne saura jamais ce qu'il y a du côté de la face cachée de la Lune. La Lune peut être apprivoisée, mais du côté simplement visible d'ici. Et c'est ce qu'on voit encore dans la dernière image de la Castafiore, où la Lune est placée juste au-dessus de la femme, comme un point sur un i. Donc la Lune, c'est une force au départ inquiétante. Toute l'image de l'étoile mystérieuse, qui n'est pas lunaire, mais peut aller dans ce sens-là, si vous voulez. Après tout, ce qu'on voit de l'espace au départ, c'est une énorme araignée qui est placée sur l'énorme Brakmar du télescope. La Lune, qui au départ est inquiétante, à la fin est apprivoisée.
Merci Philippe Rath, c'est fascinant. Je recommande la lecture de votre livre à celles et ceux qui nous écoutent, Tintin ou l'accès à soi. Mais je les préviens d'une chose, s'ils vous lisent, ils seront obligés ensuite de relire toutes les aventures de Tintin.
Et c'est le but que poursuit le livre. Si vous lisez Tintin, vous aurez des plaisirs infinis.
Merci à vous. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Catherine Madure, à la technique Thibaut Germèse et à la réalisation François Connac.
Le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, le soleil attend, papa dit qu'il a vu sa nuit. Philosophe, écoutez, cette phrase est pour vous, le bonheur est un astre volage, qui s'enfuit à l'appel de bien des rendez-vous, il s'efface, il se meurt devant nous. Quand on croit qu'il est loin, il est là, tout près de nous. Il voyage, il voyage, il voyage. Puis il part, il revient, il s'en va n'importe où. Cherchez-le, il est un peu partout. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici pas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, 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 mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Papa dit qu'il l'a vu à lui. Papa dit qu'il l'a vu à lui.
Dans quelques instants, autant dire tout de suite, vous retrouvez Projection privée par Michel Simand.